Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radiola, web radio de proximité au pays de Diolfi Bourdeau, Drôme, Monde. C'est toujours aussi agréable de vous retrouver chaque mardi à 9h30, vous nous écoutez sur les ondes numériques, l'appli Radiola, et également en podcast évidemment très bientôt sur radiola.media. Pour ces entrevues hebdomadaires, nous nous faisons les porte-voix, chers auditeurs et chères auditrices, des initiatives culturelles, artistiques et sociales les plus réjouissantes de notre beau territoire où, il faut bien le dire, il fait très bon vivre. Aujourd'hui, on parle démocratie, santé mentale, culture, sécurité sociale, de l'alimentation, décolonialisme. Autant de sujets engagés que nous pourrons savourer grâce au Gestival, festival de conférences gesticulées, qui propose de cultiver ensemble les savoirs populaires sans aucun dogmatisme. Un nouvel événement qui se balade de Diolfi à Saint-Féréol 30 pas en passant par La Payette et Tessière pendant 3 jours. Les 7, 8 et 9 novembre prochains. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin au studio Caroline Dumas, gesticulante à l'origine de l'organisation de ce nouveau rendez-vous. Bonjour Caroline.
Bonjour à tout le monde.
Merci d'être dans le studio ce matin avec nous. Et nous avons également en ligne depuis la trop lointaine Bretagne, Franck Lepage, militant de l'éducation populaire à l'origine des conférences gesticulées. Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous pour discuter aujourd'hui. Le Gestival en balade se déroulera donc 7, 8, 9 novembre prochain. C'est une première expérience que tu nous proposes, Caroline, et avec l'aide de Franck aussi. Comment est née cette envie et cette proposition de rencontre autour de la conférence gesticulée? Je ne sais pas si c'est la première fois que ça se fait ou pas.
Je crois que dans le Sud Drôme, c'est la première fois, mais il y en a un peu partout en France, des festivals de conférences gesticulées. Alors ça s'appelle Festiconf ou Gestival. Bon, nous, on a choisi Gestival. Et comme on le fait sur 4 communes, on s'est dit qu'on appelait ça Gestival en balade. Mais c'est donc en effet une première sur le territoire.
Et comment s'est née alors cette idée? C'est un peu ton parcours, Caroline, qui a fait en sorte, en partie... que ça puisse avoir lieu.
C'est né en novembre 2024, quand on était en fin de stage en Bretagne avec Franck et Katia, nos formateurs. On était un groupe de 5 en fait, à se former à construire notre conférence gesticulée. C'est une formation quand même de 4 semaines, enfin en tout cas 4 fois, 4 jours bien pleins. C'est proposé par l'Ardeur. Et du coup, en fin de stage, on était ensemble, on faisait le bilan. Et là, Franck et Katia nous ont dit, comme on n'a pas eu le temps de vraiment tout faire et qu'on pourrait vous former à faire des ateliers après la conf, si vous voulez, on vient chez un de vous. Et j'ai dit, moi, chez moi. Venez dans la Drôme. Voilà, ça a commencé comme ça. Puis après, j'ai dit, mais si vous venez, vous faites vos confs. Voilà. Parce que les confs, quand on dit conf, c'est les conférences gesticulées. Hein. Et ça a commencé comme ça, l'idée. Et donc, moi, je suis ravie. Il y a trois gesticulants qui viennent, qui ont fait leur formation avec moi, en fait. Voilà.
Alors, comment ça se passe? Toi, tu rencontres donc Franck et Katia. Tu viens déjà avec toutes tes connaissances sur l'éducation populaire, que tu apprécies déjà fortement. Tu connais bien sûr déjà Inculture, que tu as vu 250 fois en vidéo, j'imagine. Tu aimerais devenir gesticulante, toi aussi. Comment ça se passe, la première rencontre, le premier jour de stage?
Déjà, en fait... Oui, je connaissais les conférences gesticulées et j'adorais Inculture. Mais le fait de vouloir construire ma conférence gesticulée, ça vient de la sécurité sociale de l'alimentation, en fait. C'était comment faire un lien entre mon expérience et ce qui se passe à Diolfi et ce qui se passe un peu partout en France et comment apporter mon regard, mon analyse. Et donc, je me suis dit, mais oui, il faut que je fasse une conférence gesticulée. Donc ça, c'est de mon côté. Après, je me suis inscrite à l'Ardeur parce que c'est la meilleure des associations. Non, mais c'est parce que je trouvais que ça correspondait bien à ce que je souhaitais faire. Et parce que mon regard était politique et j'avais besoin de cette formation aussi comme ça. Et par contre, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit Franck Lepage, le formateur. Donc là, j'ai eu une grosse surprise quand c'est arrivé. Et je me rappelle encore, je suis arrivée au stage et je dis « Ah, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais bien !» C'était drôle. Voilà, et ben, j'étais ravie de faire ces 4 semaines de formation en petit comité. D'habitude, les stages se font plutôt à 8-9 personnes et nous, on était 5. Mmh. Mais avec des sujets très différents, des personnalités très différentes, des histoires de vie très différentes. Et c'est assez magique. Moi, je suis très éclectique dans mes goûts et c'était super d'être...
Et c'est une diversité qu'on va voir dans la programmation, justement. Mais juste un dernier mot sur cette expérience. Et peut-être aussi, on peut demander à Franck, est-ce que faire sa propre gesticulation, enfin conférence gesticulée, ça vient comme une urgence à un moment donné par rapport... à justement aux résurgences de propos politiques et sa propre expérience.
On te laisse répondre, Franck.
Oui.
Je parle plutôt des stagiaires, justement, Franck, que tu reçois. Est-ce qu'ils arrivent avec ça déborde.
J'ai une anecdote, je trouve, qui résume bien. C'est quelqu'un qui est venu me voir il y a déjà un certain nombre d'années qui m'a dit bonjour, voilà, j'ai été 5 ans conseiller en mission locale pour l'insertion. Soit je fais un cancer, soit je fais une conférence gesticulée. Et je lui ai dit, conférence plutôt.
Choisissons la conférence.
Mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a un moment où il y a quelque chose qui ne va plus et on ne sait plus comment le transformer en un objet, enfin, le politique partageable, enfin, voilà, pour ne pas devenir fou, pour ne pas tomber dans le burn-out, bref, toutes ces choses-là.
Oui, il y a une première fonction qui est un peu de témoigner, quoi.
Oui. Je dirais que les gens qui se sentent très, très bien dans cette société, ça m'étonnerait qu'ils fassent une conférence gesticulée pour dire qu'ils se sentent bien. Enfin, ça n'aurait pas grand intérêt.
Bien sûr.
C'est donc forcément parce qu'il y a quelque chose qui gratte, enfin, quelque part. Et puis, voilà. Et puis, cette forme commençant à être connue, de plus en plus de gens voient cette forme disponible en disant mais ça c'est ça je peux le faire et ça je vais le faire. Voilà, ça se passe comme ça.
On va en reparler dans un instant justement de cette forme. Alors je disais de nombreuses thématiques, c'est un peu le fait même de la conférence gesticulée, de la diversité des personnes qui ont besoin de s'exprimer. Psychiatrie, décolonisation, politique politicienne à l'Assemblée, le travail aussi, la violence dans les luttes. Tu as dit qu'il y avait 3 personnes qui étaient avec toi dans le stage.
De mon côté, c'était simple. C'était les 4 personnes avec qui j'avais fait mon stage. À qui je voulais le proposer. Mais en fait, quand on s'est réunis avec l'autre association, hein, puisqu'on est 2 associations à porter le gestival, hein, donc il y a la compagnie biodégradable, qui est notre association côté Dulphine, et on a Le Petit Coin, qui est une association de l'autre côté du col de Valouse, hein, à Saint-Ferrol-Trente-Pas, et eux aussi voulaient faire venir Franck Lepage. Donc en fait, c'est les Bretons, Katia et Franck, qui nous ont mis en relation pour que justement on organise ce gestival ensemble. Et on s'est posé la question si on partait sur une thématique ou pas. Moi, j'avais pas tellement envie, mais pas que parce que je faisais venir mes collègues, mais aussi parce que je pense qu'on peut entrer dans... Enfin, on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront, qui ne connaissent pas les conférences gesticulées et qui viendront par le thème, parce que c'est la thématique qui les intéresse. Donc, on avait envie de balayer plein de thématiques différentes.
Oui, c'était ça l'idée. L'importance de tout dire sur ce qu'on a à dire sur un sujet particulier. Toi, quand tu as fait ta conférence, quand tu as été faire ce stage, est-ce que tu étais un croisement de ta vie entre vie professionnelle, engagement, justement, tu parlais de la sécurité sociale, de l'alimentation, qui est un sujet qui est très, très habité sur le territoire de Dulphy-Bourdeaux depuis quelques années. Est-ce que c'était un croisement?
Moi, de toute façon, dans ma vie, j'ai plein que de croisements, mais là, c'était un gros croisement, en fait, la sécurité sociale de l'alimentation par rapport à ma vie. Et du coup, il me semblait que je n'arrivais pas à dire tout ce que j'avais à dire aux gens avec qui j'étais en réunion en permanence, en fait. Et je me suis dit, comment je fais? Je vais écrire un livre? Ben non, moi, je suis incapable d'écrire un livre. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit, j'ai besoin d'exprimer tout ce que j'ai compris Et donc, c'est ma façon maintenant d'être militante pour la sécurité sociale de l'alimentation, de raconter ça au travers de mon expérience. Et, Et d'ailleurs, moi, je ne la joue pas, là. Hein, tu vois, tu
oui, oui, tout à fait.
Moi,
ouais.
Je ne la joue pas parce que j'organise le festival, ça fait déjà
c'est
beaucoup.
C'est pas possible.
Mais je la joue beaucoup parce que c'est un sujet vraiment, aujourd'hui, chaud. Et du coup, il y a plein de gens qui la demandent pour en savoir plus sur la sécurité sociale de l'alimentation.
Et est-ce que les retours que tu reçois te laissent à penser qu'effectivement, c'est reçu d'une manière différente, c'est perçu d'une manière différente, le sujet, grâce à ton intervention?
Ben ouais, là j'ai plein d'interrogations moi de mon côté. J'ai l'impression que dans des endroits, de toute façon tout le monde est content, tout le monde vient me voir en me félicitant, voilà, super, mais bon. Ils ne me parlent pas toujours de la sécurité sociale de l'alimentation et c'est ça qui m'embête. J'aimerais mieux. Donc du coup je les ramène à ça, je dis oui mais la sécurité sociale de l'alimentation, vous avez compris, ça vous... Donc je ne peux pas bien te dire, mais en tout cas... En tout cas, ça marche, les gens sont contents, j'espère que je sème des graines.
C'est ça, les informations passent, ouais. Quoi qu'il en soit. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la programmation en substance de ces 3 jours
Donc ça commence le vendredi soir, et là on a 2 conférences gesticulées, une à Montjoux et une à Saint-Ferréol, donc on ne pourra pas voir les deux. À Montjoux, c'est un pimpin chez les dingos, donc c'est Thierry Pelletier qui fait une conférence sur les questions de santé mentale et de fonction asilaire de la psychiatrie. Et puis, on a Camille Pasquier qui fait plutôt une conférence sur l'éducation et la question de la domination des adultes sur les enfants. Et à Saint-Ferréol, après leur conférence, il y a un concert de cumbia. Alors, je ne sais pas si nous, de notre côté, on va passer le col pour aller danser. Mais voilà, ça danse après, en soirée. Et puis, le samedi, on n'en a qu'une, mais c'est celle de Franck. C'est un Culture 2, donc une autre histoire de l'éducation. Et là, comme elle dure 4h30, on s'est dit qu'on allait faire une après-midi soirée avec un repas au milieu. Et donc, voilà, ça c'est le samedi et c'est à Dieulfi à la Halle. Et puis dimanche, on en a 4. Donc, une le matin, c'est Cosette à la députation de Sabine Rubin. Donc ça, c'est à Tessières. Il y en a une autre à Tessières dans l'après-midi, c'est Christophe Rouault avec La valeur travail, tu l'aimes ou tu en crèves. Donc c'est bien sur la question du travail et de l'ascenseur social. Et puis à Saint-Ferréol, on en a une à 14h qui s'appelle « Le céleri et les vers ». C'est Mélissa Chauvin-Bilouta, une petite histoire de l'impérialisme républicain. Et enfin à 18h, Jean-Marc Jourdan, « Le coup de poing n'est pas parti » ou « Le paradoxe de la légitimité de la violence dans les luttes ». Voilà, un joli programme. Hein,
un très beau programme qu'on peut retrouver où?
Le programme?
Oui.
Ah, si on veut, on l'a sur Ensemble
voilà.
Ici.
Voilà, on va la voir sur Radio là, bien sûr, sur la page de cette interview.
Sur la page de cette interview, donc sur la page Radio là, sur Ensemble Ici et sur Hello Asso.
Très bien. Avant de revenir à l'essence un peu de la conférence gesticulée et aux aspects politiques et aux aspects langagiers qui sont sous-tendus aussi par cette prise de parole, je vous propose d'écouter un extrait. On disait que c'était souvent un moment charnière de sa vie qu'on se met à réfléchir, à transmettre sa propre expérience et ça urge. C'est le cas de Thierry Pelletier qui présentera sa conférence gesticulée, tu l'as dit, un pimpin chez les dingos le vendredi 7 novembre à 19h30 à Montjoux-la-Paillette en ouverture du festival. Un petit extrait puis je vous ferai réagir juste après. À tout de suite.
En décembre 2023, j'ai postulé à un poste, à une annonce, à un poste de médiateur père aidant en santé mentale. En fait, ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de faire ce taf, parce que je me suis aperçu au cours de mon parcours psychiatrique que j'étais vachement plus cool avec mes frères pimpins qu'avec mes contemporains normaux. D'ailleurs, entre nous, les pimpins, les normaux, on les appelle les normopathes, parce que bien souvent, ils sont cons comme des balais. À l'époque, j'étais stabilisé, comme on dit, depuis un an, plus aucun traitement psychiatrique. J'avais 20 ans de travail social derrière moi, j'avais le profil idéal que je me disais. Sauf que le jour de l'entretien d'embauche, l'éducatrice qui me recevait, la première question qu'elle m'a posée, c'est « Quelle plus-value pensez-vous apporter à notre association, monsieur Pelletier ?» Oh putain. Elle m'a séché, la vilaine. Hein. Je sais d'expérience que dans ce genre d'entretien, il ne faut pas la ramener, hein, faut rester bien humble. Je m'étais bien mentalisé, mais je ne sais pas pourquoi. C'est sorti tout seul, je n'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai dit, mais la plus-value, mais c'est du langage managérial. Ce n'est pas mon langage. Je dirais même que je récuse ce langage. Eh bien, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce qu'à côté d'elle, côté d'éducatrice, il y avait un jeune trentenaire fringant, au sourire étincelant, et vachement impressionnant pour moi, qui n'ai plus que 19 ans. Et d'un seul coup, il n'a plus souri du tout. C'était le directeur du dispositif. Ça s'appelait « Un chez-soi d'abord, son bordel ». Il souriait plus du tout et il m'a dit « Monsieur Pelletier, vous venez de répondre assez agressivement à ma collègue. Eh bien, sachez qu'il est communément admis depuis plusieurs années qu'on utilise le langage économique dans le jargon éducatif. » Ah merde, là j'ai bien senti que j'avais commis un galou. J'ai essayé de rétro-pédaler, comme disent les couillons qui roulent en fixie, mais c'était trop tard, c'était mort. Alors j'ai bien ressassé cette affaire, moi, j'ai bien ressassé cette histoire. J'ai bien fantasmé tout ce que j'aurais dû lui répondre au trentenaire souriant. Notamment sur ces histoires de jargon. Le jargon, à l'origine, c'est la langue des coquillards, c'est la langue des voleurs. C'est une langue secrète à l'usage des seuls initiés. Et puis j'ai surtout bien regretté de ne pas lui avoir mis la table sur la gueule. Ça, c'était en décembre 2023. Mais bon, comme dit la sagesse populaire, même le diable porte pierre. Parce que peu de temps après ça, j'en étais encore à ruminer de molles et vagues, mais tenaces idées de vengeance, quand j'ai découvert les conférences gesticulées sur YouTube. Et puis ça m'a permis de vivre ce qu'on appelle une anamnèse. Parce que quand j'étais éducateur avec les toxicos à Mantes-la-Folie, 78-200 en force, je remplissais plein de dossiers d'AH pour les tox, et j'avais coutume de dire un brin condescendant, la cotorep pour un tox, c'est le couronnement d'une carrière. Ben, c'est vrai, on passe du RSA à 1016 euros aujourd'hui, c'est pas rien. Je fais un petit peu moins le malin maintenant. C'est donc cette foutue plus-value, mal digérée, qui m'amène à débagouler devant vous aujourd'hui.
Et voilà, Thierry Pelletier, il a commis un galou et il se retrouve sur scène. Un extrait de la conférence gesticulée qu'il va donner le vendredi 7 novembre à Montjoux à 19h30. À noter, donc tu l'as dit, mais on le redit si vous êtes de l'autre côté de la montagne, la conférence gesticulée de Camille Pasquier, c'est pour ton bien, ma chérie, se jouera le même jour, à la même heure, à la salle des fêtes de Saint-Féréol, 30 pas, un peu en miroir. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous dire quelques mots de cette conférence gesticulée qui, effectivement, est, on le sent, est émue par une urgence et une colère?
Ouais, vas-y Franck.
Non, parce que moi je la connais pas celle-là.
Ah bah voilà.
Moi j'ai accompagné la première, mais ça c'est une deuxième qu'elle a faite.
Ah oui, non mais celle de Pimpin, un Pimpin chez les dingos, celle de Thierry.
Ah pardon, je crois que tu parlais de celle de Camille.
Ah pardon. Moi je la connais pas non plus celle de Camille, mais non mais pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre de Thierry là. Bon, moi, pour moi, Thierry, il était à l'opposé de moi dans sa réflexion, dans son expression. C'était une découverte. J'adorais. C'est truculent, en fait. Il a un langage. Il parle à la fois. Il a du vocabulaire du XVIe siècle et de l'argot parisien. Et on ne comprend pas tous ses mots, mais en fait, on comprend tout à fait son propos. Et ce qu'il a à dire aussi, moi, ça m'a bouleversée. Par son témoignage, parce qu'il nous fait vivre vraiment ce qu'il a vécu dans les hôpitaux psychiatriques, pour lui en tant que malade, mais aussi en accompagnant. Et on n'imagine pas, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on n'imagine pas en fait ce qui se passe et la solidarité entre tous ces gens-là. Et c'est ce qui nous fait partager. Et il nous explique pourquoi c'est important en fait ces lieux-là. Franck, tu veux dire un truc sur la conférence de Thierry ?
Non, mais ce qui est génial, ce que je trouve dans ce qu'il vient de dire, c'est il rumine des idées de vengeance, d'échec. Il a postulé, il a été rétamé, donc ça, etc., etc. Et il tombe sur les conférences gesticulées.
C'est ça. C'est le processus en fait qu'on sent bien à travers ce qu'il dit.
Et là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, deux minutes plus tôt. Enfin, il se dit, mais ça, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je vais faire. C'est-à-dire que cette forme, je ne sais pas comment l'appeler, enfin, cet objet bizarre, il se sent immédiatement capable de l'habiter, de le gesticuler, quoi, comme on dit.
Et Franck, quand tu reçois chez toi ces futurs gesticulants et gesticulantes, cet accompagnement justement, trouver les mots, se sentir légitime, on sent que c'est mû par une forme de colère, hein, sociale notamment. Comment on fait pour aider à l'accouchement d'une conférence gesticulée ?
Bon, alors là, il y a beaucoup de boulot.
Aïe, aïe, aïe.
Il y a beaucoup de boulot parce que ce n'est pas un simple témoignage.
Oui.
L'exercice du témoignage, y compris du témoignage public, existe sous plein de formes. Il y a du théâtre d'autobiographie. Les gens peuvent écrire leur vie. Donc c'est pas seulement ça, et c'est pas non plus seulement une analyse politique. Là encore, il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des experts. Et des gens qui écrivent des livres très compliqués, très intelligents. Donc c'est le croisement entre ces deux dimensions-là qu'il faut arriver à toucher. Ce qui n'est pas évident, parce que on est toujours le gesticulant, comme on dit, on les appelle comme ça, qui va essayer de faire ça, il est sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que si il penche trop du côté de l'autobiographie, ça va tomber dans raconte ta vie. Enfin, et s'il est trop du côté de la théorie, ça va retomber dans autre chose qu'on connaît tous, enfin qui est le discours militant, un peu épuisant, le discours de
un peu plus désincarné,
un peu complètement désincarné, ouais. Et donc cet équilibre là, il est passionnant. Moi, je trouve qu'il est fascinant à trouver, et c'est pour ça qu'il nous faut bien 4 fois 4 jours pour arriver à l'approcher. C'est pas donné d'entrée, quoi.
On l'imagine bien. Et d'ailleurs, Inculture, ta conférence gesticulée que tu vas donner le samedi 8 novembre, a été créée il y a longtemps maintenant, quasiment une vingtaine d'années, si je ne me trompe. Toi, dans quelles conditions et comment tu as commencé et comment tu as réussi à trouver cet équilibre et en combien de temps, tiens, finalement ?
On a combien d'heures, là ?
C'est un peu, je sais pas, j'ai envie juste de dire, c'est un peu différent pour Franck, parce que Franck, il l'a fait d'une manière un peu innée, c'était sa
spontanée
manière de s'exprimer. Mmh. Et après, les gens qui ont éprouvé cette forme et qui ont voulu la rendre justement
tout à fait
partagée, ils ont analysé et encore lors de notre stage, Franck et Katia changeaient des méthodes pour accompagner en 4 semaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on bénéficie, enfin les gesticulants qui se forment, de 10 ans ou peut-être un peu plus, je ne sais pas, 10 ou 15 ans de formation et de méthode. Et moi, j'ai été bluffée par la méthode, en fait. C'est vraiment, parce qu'on se laisse accompagner, on se laisse faire par les exercices qu'on nous donne et on voit bien qu'on est en train de construire, tisser, faire des Scooby-Doo avec plein de fils. Et donc, c'est un truc qui travaille. Alors, c'est très impliquant. On travaille aussi entre les semaines de stage. Mais pour moi, la méthode, elle est géniale. Et je ne saurais pas complètement l'expliquer. Mais
si Inculture était à refaire, Franck, ce qui ne se fait pas, j'imagine. Mais du coup, tu aurais plus de méthodes à l'heure actuelle pour tu le referais différemment ?
Je suis le plus mauvais exemple, parce que du coup, je ne correspond pas du tout à ce qu'on fait faire aujourd'hui. Mais ce qui est... Je te remercie, Caroline, d'avoir rappelé ça, parce que les conférences gesticulées, ce n'est pas l'œuvre de Franck Lepage, quoi.
Ouais, oui.
C'est un travail collectif qui se fait depuis effectivement quasiment une vingtaine d'années. En tout cas, une bonne grosse dizaine d'années, ça c'est sûr. Dans le cadre de coopératives d'éducation populaire, dont la première s'était appelée Le Pavé en Bretagne.
En 2007,
En 2007, ensuite il y a eu cinq autres coopératives qui se sont montées en France, à Toulouse, à Grenoble, à Strasbourg, etc. Et ce sont tous ces gens-là qui ont contribué à comprendre comment ça marchait, comment ça pouvait être efficace. Une prise de parole publique de ce type qui est sur un sujet qui est vécu, incarné et analysé. Et donc, c'est vraiment le produit d'un travail collectif qui continue de se construire, quoi. C'est pas un type qui s'appelle Franck Lepage qui s'est réveillé un matin, tu vois, une espèce de génie qui a trouvé une forme, ça. Là, on serait complètement dans le mythe de l'artiste qui est un truc que je déteste profondément parce que précisément, il élimine toute la dimension collective, quoi, du travail.
Mais toi, t'as inventé le nom. Alors, c'est pour ça que t'es quand même un peu l'inventeur.
Oui, mais
les conférences gesticulées.
Oui, bien sûr.
Comme c'est parti d'un gag.
Un bel oxymore qui rappelle justement le lien au langage dévoyé, non ?
Oui, et à l'anti-expert. Enfin, je veux dire, bon, pour la petite histoire, quand un concours de circonstances fait qu'on me propose de monter sur scène à Avignon et de tenter une espèce d'expérience qui est je monte sur scène et je raconte tout. Enfin bref.
La toute première, quoi.
Toute première, je me retrouve plutôt la deuxième, mais bon, je me retrouve à devoir aller. Oui, parce que la première fois, ça a juste duré 3 jours. La deuxième fois, on m'a proposé de faire tout le festival tous les jours. Donc, je me suis retrouvé à devoir m'inscrire dans un truc qui est le catalogue du off, pour ceux qui connaissent
l'ambiance. 1500 propositions.
1500 propositions. Donc, tu y vas, j'arrive là-dedans, bonjour, voilà, ça va être à telle date, à tel endroit. Et alors, le type me dit, on vous met dans quelle rubrique? Théâtre? Donc, je dis, non, rien à voir, c'est pas du tout ça. Il dit, bon, alors, conte. Vous allez me fâcher avec les conteurs, il n'y a pas plus sérieux que ces gens-là. Et donc, il dit, bah, clown. Je dis, je vous en prie. Enfin, et donc, le type me dit, bah, d'accord, mais on met quoi? Et en fait, complètement pris au dépourvu. Enfin, je veux dire, je lui dis, bah, mettez que c'est une conférence gesticulée. C'est-à-dire, et il s'agit bien d'une conférence. On va apprendre des choses, il n'y a pas de doute là-dessus, mais elle est prononcée par quelqu'un qui n'est pas légitimé par l'institution universitaire, c'est pas un expert, c'est pas etc etc. Et donc le côté gesticulé, c'était pour dire voilà, ça va être monsieur tout le monde, quoi, ça va être foutraque, ça va être etc, mais je vais quand même dire des choses, quoi.
Oui, gesticuler, ça fait tout de suite très vivant comme ça, très très populaire.
Oui, et cet oxymore a fonctionné parce qu'après on a cherché un terme mieux. On s'est dit, oh là, quand même, il faudrait qu'on trouve... Alors, on trouvait que des trucs de langue de bois. Alors, conférence politique, tu parles du truc, tout le monde se sauve.
Mais malgré tout, c'est quand même une prise de position très politique. On ne peut pas quand même parler de théâtre politique un peu?
Non, je pense que ce n'est vraiment pas la même chose. Okay. C'est-à-dire que c'est... Mais bon, on aura le temps d'y revenir.
Oui, on y reviendra.
C'est parce que c'est pas du théâtre, en fait, puisque c'est tout le monde qui peut faire sa conférence gesticulée. En fait, moi, j'aimerais que, tu vois, à la fin du festival, il y ait plein de gens qui aient découvert cette forme et qui se disent, bah, moi aussi, j'ai envie de la faire, la mienne, tu vois. Parce que c'est ça, l'éduc-pop, en fait, c'est que ça soit accessible. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas s'appeler du théâtre politique. Si tu veux, le théâtre politique, c'est réservé aux artistes qui écrivent, aux auteurs qui font du théâtre politique, quoi.
L'idée de la conférence gesticulée, c'est aussi de sortir du discours préconstruit. On en parle beaucoup dans Inculture notamment. Comment on fait, Franck et Caroline, mais Franck aussi, pour désapprendre le discours majoritaire, la novlangue, les clichés? Moi, déjà, en préparant cette interview, j'avais l'impression d'en écrire plein, des clichés. Alors, comment on fait? On a 3 heures, là, encore.
il faut les repérer, il faut les dépister. Et surtout la conférence gesticulée, c'est le travail des contradictions. C'est le contraire d'un tract. C'est pour ça que quand des gens s'adressent à nous en disant oui, je voudrais faire une conférence gesticulée, donc on dit oui, bien, sur quoi? Sur, je sais pas quoi, les mégabassines ou les gaz de schiste ou le nucléaire, enfin bref, des objets militants, etc. Et en général, on dit mais pourquoi? Enfin, vous travaillez là-dedans, vous travaillez chez EDF. Non, mais c'est vachement important, etc. Et en fait, on dit ben non, ça va pas marcher. Venez pas chez nous, c'est pas du tout l'objet qu'on va construire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que des gens tiennent un propos militant, genre vous devez absolument adhérer à ce que je raconte. C'est des gens viennent travailler les contradictions de leur propre militantisme. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est-à-dire.
Si, justement, ils viennent désapprendre déjà eux-mêmes, oui. Peut-être une partie de,
oui,
de leur formalisation, en fait, dans la société.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est un exercice qui est à la fois cruel,
oui.
Mais qui rend les choses encore plus intéressantes à l'arrivée, bien sûr, puisqu'on n'a pas un tract. Qu'est-ce qu'on fait avec un tract? Enfin, quand on vous le donne, on attend que la personne ait tourné le dos, on le froisse et on le jette par terre. Voilà. C'est ça qu'on fait avec un tract en général. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que je fais. Et donc, l'idée, c'est évidemment pas de produire un tract. Ça serait une forme de spectacle militant, à sens unique. Il y aurait, voilà, bref, on apprend.
Et à contrario, on ressort avec quoi quand on ressort d'une conférence gesticulée?
c'est ça qui m'interroge encore, en fait, moi, tu vois. Je me dis, on est touché, en fait. On est touché par différents trucs.
Humains.
Humains, oui, vraiment, avec des émotions. Les émotions, tu vois, là, il y a Thierry, mais Christophe, c'est encore plus. Enfin, il est hyper touchant et donc ça nous traverse par d'autres endroits que juste notre intellect.
Absolument.
Et en fait, ça nous laisse des traces. Mais c'est super dur de raconter à quelqu'un, quand on vient d'écouter une conférence gesticulée, de raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, en fait. Parce que justement, c'est pour ça aussi qu'on peut les voir 10 fois, les conférences de Franck ou d'autres, parce qu'en fait, on n'a pas tout compris la première fois, on n'a pas... Ce qui a été intégré par la personne qui vient nous faire quelque chose, c'est une vie, en fait, ou une portion de sa vie. Mais, donc, c'est normal qu'on n'ait pas compris en sortant, et c'est normal qu'on ait des difficultés à raconter ce qu'on a vécu pendant la conférence gesticulée. Mais il n'empêche que ça laisse des traces. Voilà, moi je...
Mais l'exemple de Thierry Pelletier, justement, il est passionnant. C'est une conférence qui parle de la psychiatrie. Bon, il est convenu à gauche de dire que la psychiatrie, c'est une horreur. Hein, je dirais que je m'excuse, mais la doxa, si vous êtes un militant de gauche, c'est d'être antipsychiatre, antipsychiatrie, etc. C'est, mon Dieu, quelle horreur, l'enfermement, patati patata, tout ce que vous voulez, etc. Ça, c'est un tract. Mais on peut faire un tract contre la psychiatrie, il y a largement de quoi. Hein. Il y a 2-3 bouquins qui sont sortis sur l'état de la psychiatrie en France. Bon, c'est pas difficile. Thierry nous prend complètement à contre-pied, c'est-à-dire qu'à la fois, il est capable de dire bah oui, la psychiatrie, c'est pas spécialement marrant, mais en même temps, d'un seul coup, il vous parle de la fonction asilaire de la psychiatrie, de l'asile au sens de l'endroit où on peut se réfugier. Mmh. Et il nous dit à quel point, lui, ça lui a sauvé la vie une paire de fois. Et d'un seul coup, son propos devient plus du tout un propos de type tract, militant, pro ou anti-psychiatrie. Ça devient un truc beaucoup plus personnel, beaucoup plus, comment je dirais, vivant. Et effectivement, tu as raison, on est touché par ça parce que le spectateur qui reçoit ça, immédiatement se dit « mince, je voyais pas les choses comme ça, d'accord, et comment moi je ferais dans ce cas-là, etc. » Et c'est là où ça en fait un objet extrêmement vivant, quoi, je sais pas comment dire, incarné, émouvant, sensible, etc.
Ouais, et puis par contre, on sait pas du tout l'effet que ça a vraiment, c'est pas... tu vois, c'est pour ça que
ouais,
moi...
c'est ça, en quoi ça change, ça participe à changer le monde chez ceux qui viennent simplement recevoir, être touchés, certes.
Justement, parler vrai, tu vois. Moi, ouais. Récemment, là, j'ai fait une petite émission le 10 septembre. J'ai écouté les gens, j'ai tendu mon micro pour leur demander...
Bloquons tout.
Mais bon, c'était juste écouter les gens et je leur ai demandé qu'est-ce que c'était leurs préoccupations et leurs revendications. Mais c'était terrible. En fait, ils disaient les mots qu'ils écoutent à la radio et à la télé. Ça m'a fait peur, en fait. Parce que, quelque part, c'est ça. Et dans une conférence gesticulée, peut-être parce qu'on arrive, on travaille, et on a envie de dire des choses vraies, et les choses, pas les choses qu'on entend en permanence. Enfin, je ne sais pas comment dire. Les mots sont super importants. Et d'ailleurs, Franck, il fait des ateliers de désintoxication de la langue de bois. Parce que c'est super important de redire les choses avec nos vrais mots à nous et pas les mots qu'on entend tout le temps.
Mais de quand date cet asservissement justement aux mots, à cette langue du haut ?
Aujourd'hui, on est baigné par la radio et la télé de leurs mots et il faut qu'on retrouve les nôtres. Quoi.
Je dirais que le langage du pouvoir, il a toujours existé.
Ah oui.
Chez nous, ça s'appelle la langue de bois, mais dans les pays de l'Est, ça s'appelait la langue de plomb. Dans les pays anglo-saxons, c'est la langue de coton. Donc, le fait que le pouvoir utilise le langage pour nous faire subir sa domination, c'est assez simple à comprendre. Ce qui se passe depuis les années 80, c'est dans l'univers qui est le nôtre en Occident, c'est une langue de bois très particulière qui est celle du néolibéralisme, c'est-à-dire d'une réhabilitation de l'argent, de l'entreprise et d'une façon de lire la société sous ce prisme-là uniquement. Dans les associations, on se met à dire qu'il faut gérer une association absolument comme une entreprise, etc. etc. Et ce langage managérial, il va envahir, colorer la totalité de la pensée. Et on est, depuis les années 80, on est dans ce langage-là qui est très particulier. et dont il faudrait arriver à sortir. Ce n'est pas évident.
Et ça évolue encore ?
C'est de pire en pire pour moi.
Oui, c'est de pire en pire.
Moi, écoute, je travaille que dans des associations et tout ça, et ces mots-là nous envahissent. Et on a beau lutter quand on peut, pour ne pas parler de charge sociale, mais de cotisation. Ou, tu vois, il y a des petits combats comme ça, mais regarde, gérer une association, on le dit en permanence.
On le dit en permanence. Et nous, mot projet, par exemple, Franck, le mot projet, nous qui sommes une association, on l'utilise en permanence, mais je n'ai jamais réussi à trouver un autre mot. Ouais.
Et le mot management qui envahit les associations d'EducPop, là, moi, ça me...
Non, le caractère extrêmement pernicieux de ce langage, c'est que c'est un langage positif. Ce ne sont que des mots positifs. Comment vous faites pour combattre, pour résister à une démarche qualité ? Vous êtes contre la qualité ? Il y a un problème avec la qualité ? Et le piège est qu'il ne s'agit absolument pas de qualité. Ce qu'on appelle les démarches qualité, qui est une véritable horreur, qui est en train de rendre tout le monde dingue, c'est une démarche productivité, c'est une démarche d'hyper-contrôle. Ça n'a strictement rien à voir avec la qualité. C'est d'ailleurs très souvent une baisse de la qualité, d'ailleurs, là où ça se met en place. Mais vous voyez, ça s'appelle démarche qualité. Et donc, ça rend difficile de résister.
C'est pervers, en fait. C'est pervers, en fait.
Il n'y a plus d'échec scolaire, mais de la réussite éducative.
La réussite, oui, c'est ça, la réussite.
Alors, finalement, les conférences gesticulantes, c'est subversif ?
Oui, normalement, oui.
Ouais, normalement, oui.
Ou ça fait du bien parce qu'on est là entre humains, humains très humains.
Eh ben, on va proposer aux auditeurs et aux auditrices de venir vérifier ça les 7, 8 et 9 novembre. Oui, Franck, pardon.
Ça met des mots sur ce que les gens vivent. Souvent, ils nous disent ça. Ils nous disent, c'est dingue, vous avez mis des mots sur quelque chose que je ressens. Vous avez fait, tu as fait, je ne sais plus, référence à la notion de projet. Plein de fois, c'est arrivé que des gens viennent me voir, dont je démolis dans ma première conférence, je défonce au bazooka la notion de projet. Ouais. J'explique en quoi c'est une aliénation épouvantable. C'est pas, en plus, pas moi qui le. Je veux dire, il y a un sociologue comme Boltanski qui a travaillé là-dessus. Enfin, on peut trouver des références pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette idéologie du projet qui rend tout le monde fou. Mais quand j'en parle dans ma conférence et que je raconte ça avec mes mots à moi, mon expérience à moi, en faisant rigoler un peu, etc., j'ai des gens qui viennent me voir, ça m'est arrivé plein de fois, en disant mais c'est dingue, mais c'est exactement ça, mais vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait d'entendre ça, mais je suis en train de devenir fou avec ça, mais je savais pas comment le dire, puis je voyais pas où était le problème, etc., etc., etc. Il y a une dame qui est venue me voir un jour qui m'a dit, monsieur, ce que je vous venais de dire sur le projet, ça veut dire que je ne suis pas folle. Et en fait, cette dame, elle était dans une espèce de souffrance sans bien pouvoir l'identifier.
Oui, sans l'identifier, bien sûr.
Ben non, parce que c'est bien de faire des projets. On a tous des projets. Là, j'ai un projet de bière dans pas longtemps.
Eh bien, réunissez tous vos projets et on va se retrouver du coup les 7, 8 et 9 novembre prochains à Montjoux, à Tessières, à Saint-Féréol, 30 pas dans les petits villages et aussi à Dieulefit. Merci beaucoup Franck Lepage, merci Caroline d'être venue. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Caroline, toi qui as le programme sous les yeux quand même ?
On n'a juste pas dit de quoi parlait la conférence de Franck. Celle-là, c'est un culture 2, c'est une histoire de l'éducation, tu veux... Tu nous la résumes en une phrase.
Super.
Parce que les 4h30, c'est bien beau, mais... Non, si, ta petite phrase en dessous, c'est « Et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres ?»
Voilà. « Et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres ?» qui était une idée de Le Pelletier de Saint-Fargeau, de la Révolution française. Non, c'est une conférence sur un mensonge d'État qui est celui de l'égalité des chances à l'école. L'école est un lieu qui est là pour fabriquer de la hiérarchie, de la sélection, pour classer les élèves de 1 à 20, qui dit en permanence qu'elle est là pour faire de l'égalité, ce qui fait que tout le monde devient dingue, les profs deviennent fous, ils terminent tous dans des maisons pour profs à écouter du Barbara sous la pluie en fin de carrière, les élèves, voilà, cette idée de... Voilà, c'est, faut pas dire plus simplement le mensonge de l'école, voilà.
Alors, je vais Je vais mettre plein de petits programmes dans les écoles du territoire parce que je suis sûre que les instits et les profs seront intéressés. Ils connaissent.
Bien sûr, c'est les premiers à savoir. Hein.
Ouais, ouais.
C'est les premiers à souffrir, hein, les profs. Hein.
Ouais. Mais tu leur fais du bien en mettant les bons mots dessus.
C'est l'idée. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve le programme ainsi que toutes les conférences gesticulées en réservation sur Hello Asso en cherchant Gestival en balade 2025. On mettra aussi les liens sur la page de cette entrevue. À noter que la semaine prochaine, on se retrouve à mardi à 9h30. On ne sait pas encore quel sera l'invité, mais ce sera une surprise. On vous dit à très vite à l'écoute de Radiola ou au pays de Dieulfi-Bourdeau si on se croise. Franck, au plaisir de se croiser bientôt du coup.
Bah, t'as pris ta place, Pauline.
Oui, évidemment. On se quitte avec un chanteur engagé à la voix sublime, Vladimir Vysotsky, avec Rien ne va. Portez-vous bien et vive les radios associatives. Vous nous écoutiez sur Radio Saint-Ferréol et RDIWA aussi. À très bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Sommeillant. Je vois la nuit, des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit va. Dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va. Plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cabarets sans fond où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près des montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Loin de tout manège, je suis ma vie en laissant ma trace dans la neige. Pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit, loin de tout cortège. Venez, les mémos, venez par ici, devant et derrière, nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas, avec son habit rouge? Plus rien ne va ici, déjà sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre